un podcast France Culture.
Je suis née assez pauvre, j'ai fait toute ma vie un métier de gueux, de barbouilleur de papier, celui de Jean-Jacques Rousseau. Et cependant, me voilà maintenant avec deux châteaux, 70 000 livres de rente et 200 000 livres d'argent comptant. C'est l'auteur de Zadig et de Candide qui se vante ainsi en 1761 dans une lettre à son banquier. Toute sa vie, Voltaire a cherché à s'enrichir selon une conception du bonheur fondée sur la jouissance matérielle. La fortune rend l'écrivain libre, assure le philosophe, et le luxe dope l'économie permettant la richesse des nations. Pour parler de l'économie selon Voltaire, nous avons invité Martial Poirson, historien, professeur en histoire culturelle à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, auteur de cet ouvrage « Spectacle et économie à l'âge classique, 17e-18e siècle » chez Classique Garnier. Également avec nous Loïc Charles, professeur de sciences économiques à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et chercheur à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, auteur avec Christine Théré et Jean-Claude Perrault des œuvres économiques complètes et autres textes de François Quesnay aux éditions de l'INED. Une émission préparée par Diane Devancet, Léa Sabourin, Tina Young, Léopold Thiévan et Inès Gender.
Embastillé pour un pamphlet dont je ne suis pas l'auteur.
Écrivez. Date et lieu de naissance.
Alors, né à Paris le 20 février 1694.
Au nom, prénom et surnom.
Harouet, François-Marie. Et même à ce propos, puis-je vous demander d'être inscrit sous un faux nom ? Par égard pour mon père.
J'y consens volontiers. Vous prenez pour pseudonyme ?
Voltaire. Oui, mon nom de Harouet risquerait d'acquérir une assez fâcheuse notoriété due à l'aventure qui m'arrive. Donc, à dater d'aujourd'hui, je deviens inconnu. Sous le nom de Voltaire.
Soit. Conduisez monsieur de Voltaire à la cellule numéro 20.
Si Paris nous était compté, le film de Sacha Guitry de 1956. Bonjour Martial Poirson et Loïc Charles.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Voltaire, né pendant le règne de Louis XIV en 1694, qu'est-ce qui caractérise les deux dernières décennies du règne du roi Soleil sur le plan économique, Loïc Charles ?
Les deux dernières décennies du roi Louis XIV sont des décennies qui sont relativement troublées. En effet, Voltaire naît au milieu d'une guerre, la guerre de 9 ans, puis en fait va connaître pendant sa prime jeunesse la guerre de succession d'Espagne, des années difficiles, le terrible hiver de 1709, la dernière très grande famine que connaît le royaume de France, avec des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. Et donc c'est un contexte difficile. Suit à ce contexte très difficile, finalement, tout l'inverse, puisque c'est l'époque du système de l'eau, à partir de 1715, juste après le décès en fait donc du roi Louis XIV, la régence, et comme dans le film de Bertrand Tavernier le montre bien, en fait, une période, disons, caractérisée par la fête, l'argent facile, un certain enrichissement aussi, et tout l'inverse, en fait, finalement, de ce qu'il a connu. Et quand s'achève, en fait, cette période, qui, elle aussi, est assez courte, en 1720, le système s'écroule, s'ouvre, en fait, une nouvelle période, qui, elle, est beaucoup plus calme, mais aussi, c'est une période de grand enrichissement à laquelle va participer le jeune Voltaire, et qu'il va représenter à travers ses écrits, notamment.
Voltaire qui naît à Paris dans une famille établie dans la capitale depuis plusieurs siècles, qui appartient à la petite noblesse de robe, Martial Poirson.
Tout à fait. Voltaire appartient effectivement à une petite noblesse de robe. Il est le fils d'un notaire du Châtelet, ce qui est une charge anoblissante déjà. Lui-même marié à la fille d'un greffier au Parlement. Son père va ensuite devenir conseiller du roi, receveur des tailles, et donc comptait lui transmettre cet héritage. Donc il est finalement un fils de famille solidement établi, mais en fait, très rapidement, il va créer une fiction, en fait, biographique autour de lui-même, en faisant à croire qu'il serait le bâtard d'un des clients de son père, ce qui est assez malencontreux pour ses parents, qui lui est un mousquetaire, officier du roi, donc passage de la noblesse de robe à la noblesse d'épée, sans doute plus qui correspondait davantage à son tempérament fougueux et romanesque. Et puis surtout, toute sa vie, en fait, il va entretenir le mythe qui n'est pas seulement un mythe du self-made man. Je pense que Voltaire a une sorte de détestation de ses origines bourgeoises, qu'il va va sublimer dans différents travaux, différentes théories. Et j'ai envie de lui donner la parole, là, peut-être pour commencer cette émission. Les mémoires pour servir à la vie de Molière, les mémoires pour servir à la vie de Monsieur de Voltaire, écrit par lui-même en 58. Hein, donc il construit lui-même sa légende où il dit « Il faut être en France enclume ou marteau. J'étais né enclume. » Rien n'est si doux que de faire sa fortune par soi-même. Le premier pas coûte quelques peines, les autres sont aisés. Il faut être économe dans sa jeunesse, on se retrouve dans sa vieillesse un fonds dont on est surpris. C'est le temps où la fortune est la plus nécessaire, et celui où je jouis, et après avoir vécu chez les rois, je me suis fait roi chez moi. Malgré des pertes immenses.
Oui, mais Martial Poisson, c'est un fantasme, puisqu'en réalité, sa famille a quand même de l'argent, et surtout, elle lui assure une solide éducation. Donc, il y a du capital économique et du capital culturel.
Oui, et surtout du capital social et symbolique, hein, puisqu'il est au collège Louis le Grand, il est éduqué par les jésuites. Alors, la formation chez les jésuites, à l'époque, c'est très intéressant, puisque c'est tout ce qu'il désapprouve ensuite publiquement. C'est fait de plaidoiries, de joutes oratoires, d'exercices de théâtre, d'exercices de versification. C'est là qu'il va développer des talents de plume, d'abord comme poète, et puis ensuite comme écrivain, tout à fait considérable. C'est là également qu'il va rencontrer à peu près tous ceux qui deviendront les hauts dignitaires du régime, les grandes figures de l'intelligence européenne. Donc il est effectivement tout à fait installé dans ce réseau-là. Mais néanmoins, il faut quand même pas négliger son enrichissement personnel qui, finalement, lui permet quand même de devenir, dans une large mesure, un transfert de classe et de finir avec une richesse bien plus considérable que celle avec laquelle il a commencé, même si son héritière a la surprise de constater que ses comptes n'étaient pas probablement si en ordre qu'il le souhaitait.
On va revenir sur cet enrichissement, mais effectivement, c'est grâce à son éducation à Louis le Grand qu'il va ensuite réussir à pénétrer les cercles littéraires et mondains, Martial Poisson.
Oui, alors en fait, ce collège de Louis le Grand est une sorte de tremplin, va lui permettre de graviter notamment dans la société du Temple, qui est une société d'aristocrates introduits en cour, de gens qui viennent de familles beaucoup plus considérables que la sienne. Il va se faire la nouvelle légende, la réputation d'un gentilhomme libertin, jouisseur, noceur, qui en fait correspond à une vie étudiante de jeune étudiant fortuné de l'époque, mais qu'il va finalement sublimer dans l'idée de subversion. Il va se dire en rupture de lien familial, il va avoir des mots assez durs à l'égard de son père en particulier, il va faire accroire qu'il a refusé la charge que son père souhaitait lui transmettre comme ça dans une sorte d'acte de rébellion. Donc on voit que très très vite il construit cette légende de l'homme libre en fait, affranchi du dogme, affranchi des pressions sociales, alors même qu'il est au cœur finalement dans l'épicentre dans l'antichambre du pouvoir, on pourrait dire.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
France Culture.
Ces messieurs de la faculté cherchent à nous obscurcir l'esprit.
Mais pas du tout.
Écoute-moi bien, Rémi.
Entendez-vous l'écho ?
Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres.
Qu'est-ce que vous faites ?
Tiphaine de Roquigny.
Je vous quitte, monsieur.
Voilà, Voltaire va donc entrer dans ce monde de la littérature, grâce en particulier à une épopée, la Henriade en 1723, et puis une tragédie, avant cela une tragédie Œdipe en 1718, et puis quelques années plus tard, une altercation oppose Voltaire et le chevalier de Rohan. Le jeune écrivain est frappé à coups de bâton par les laquais du chevalier, il veut se venger, mais il est emprisonné à la Bastille.
À la cour, on trouve que vous avez eu tort d'avoir fait mettre le battu à la Bastille pour tranquilliser le batteur.
À Paris aussi, monseigneur. Je reçois chaque jour des lettres nous reprochant de maintenir Voltaire en détention.
Cette affaire est bien fâcheuse. Il faut qu'elle trouve rapidement une issue.
Pourquoi ne pas l'autoriser à quitter le royaume ?
Que voulez-vous dire ?
Il a sollicité la permission de s'exiler en Angleterre.
Mais c'est une excellente idée. Qu'il parte. Plus vite il sera loin, mieux ce sera.
Pauvres Anglais, ils ne savent pas ce qui les attend.
Monsieur, j'ai reçu l'ordre de vous escorter jusqu'à Calais et de vérifier que vous embarquez bien pour Londres.
Permettez, vous avez reçu l'ordre d'assurer ma sécurité pour répondre à mon désir de quitter la France.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, l'économie. Selon Voltaire, c'est notre sujet aujourd'hui en compagnie de Loïc Charles et Martial Poirson. Alors Voltaire est exilé à Londres à la suite donc de cette altercation. Pourquoi est-il fasciné par l'Angleterre, Loïc Charles? Il n'est pas le seul à l'époque.
Ah, c'est un des premiers, parce que l'Angleterre a plutôt mauvaise presse en France à l'époque, et son ouvrage, Les Lettres aux Anglaises, pardon, qui devient ensuite Les Lettres Philosophiques, est le premier ouvrage d'ensemble par un philosophe sur l'Angleterre. Beaucoup suivront, bien sûr, mais il a ouvert en fait une tradition, finalement, qui, dans les milieux intellectuels français, tente à regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, avec plutôt de la bienveillance et de l'intérêt. Pour Voltaire, plus précisément, ce qui l'intéresse, c'est d'abord le fait, puisque, comme on l'a entendu, il a été battu, en fait, par un noble, et on lui a fait rappeler, en fait, la différence de statut fondamentale qu'il existe entre sa condition et celle, en fait, des nobles. C'est que, justement, en Angleterre, cette distinction, elle est beaucoup plus faible, en fait, qu'elle n'est en France, et il n'y a pas, en fait, toute cette étiquette qui le renvoie, en fait, continuellement à ses origines et qu'il supporte très mal. La deuxième chose, en fait, qui l'intéresse beaucoup, c'est la religion, plutôt la liberté religieuse que connaît l'Angleterre. Il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés, en fait, à ce thème, en fait, dans ses lettres philosophiques. Et le troisième thème, qui nous rapproche, en fait, plus de l'émission, c'est le commerce. En effet, en fait, il y a deux ou trois chapitres qui sont très importants sur le commerce, où il met en avant, en fait, l'importance du commerce, le développement économique de l'Angleterre, qui l'éblouit par rapport à la France. Ce qui est important, c'est qu'il lie, en fait, ce développement commercial et économique à, justement, cette liberté de culte, cette liberté politique. C'est ça, en fait, qui est vraiment original, en fait, dans son ouvrage et dans son analyse, en fait, de la société anglaise.
Oui, il est vraiment stupéfié par ce fantastique esprit de liberté politique et économique qu'il découvre en Angleterre, Martial Poirson.
Oui, absolument. C'est là qu'il va, effectivement, découvrir la puissance de la culture négociante et on peut parler du double sens du mot commerce. Le commerce, c'est aussi l'art de la conversation au XVIIIe siècle, dans lequel Voltaire brille, d'ailleurs, par ailleurs, et qui correspond à toute une sociabilité mondaine qu'il va développer, d'ailleurs, jusqu'à la fin de ses jours dans sa résidence de Ferney. Et donc, ce qui est original dans sa pensée, c'est de penser le commerce comme pacificateur, non seulement à l'extérieur, ce sera la fameuse théorie du doux commerce de Montesquieu, mais également à l'intérieur. C'est le facteur de la paix civile. Et une des lettres les plus intéressantes de ce point de vue-là, c'est la lettre sur la Bourse de Londres. Il est un des tout premiers, en effet, à réhabiliter ou à même habiliter la Bourse de Londres, en disant, voilà, finalement, c'est le seul endroit du monde où on peut voir toutes les religions deviser, converser, échanger, être dans l'échange sous toutes ses formes. Donc l'échange à la fois marchand, social, culturel, littéraire. Et donc c'est grâce aux affaires, mais dans une conception qui ne sera pas celle de l'intérêt privé, qui est beaucoup plus intéressante chez Voltaire, que se développe finalement cette pensée de la puissance civilisatrice du commerce.
Je vous propose justement d'écouter un extrait de cette lettre sur la Bourse de Londres. Entrez dans la Bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours. Vous y voyez rassembler les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. Là, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion et ne donnent le nom d'infidèle qu'à ceux qui font banqueroute. Là, le presbytérien se fie à l'anabaptiste et l'anglican reçoit la promesse du quaker. Au sortir de ces pacifiques et libres assemblées, les uns vont à la synagogue, les autres vont boire. Celui-ci va se faire baptiser dans une grande cuve au nom du Père par le Fils au Saint-Esprit. Celui-là fait couper le prépuce de son fils et fait marmotter sur l'enfant des paroles hébraïques qu'il n'entend point. Ces autres vont dans leur église attendre l'inspiration de Dieu, leur chapeau sur la tête. Et tous sont contents. S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre. S'il y en avait deux, elles se couperaient la gorge. Mais il y en a 30 et elles vivent en paix et heureuses. Martial Poirson, c'est effectivement une lettre, la lettre 6 sur la Bourse de Londres, qui préfigure le traité sur la tolérance de Voltaire.
Absolument. L'obsession de Voltaire tout au long de sa vie, c'est d'une part l'injustice de classe, ce qu'on a évoqué tout à l'heure déjà, cette humiliation qui est vraiment la scène primitive de toute son existence, et le fanatisme, c'est-à-dire en fait le dogme, une conception monolithique du savoir et des idées, y compris des idées qui ne sont pas forcément foncièrement fausses philosophiquement, mais qui tendent à s'imposer à tous. Et il se définit lui-même très tôt comme un commerçant philosophe, c'est-à-dire qu'il met sur le même plan le négoce, les affaires et le commerce des idées, cette façon donc de créer un espace délibératif, ce qui s'appellera un peu plus tard l'opinion publique. En fait, il invente avec quelques autres la notion d'opinion publique et d'espace public délibératif. Donc il est vraiment dans cette vision, non pas forcément consensuelle, hein, c'est aussi un grand pamphlétaire, un auteur de manifestes, d'œuvres très très radicalement engagées en fait, mais qui sont... c'est intéressant d'ailleurs de voir que même dans ses écrits les plus polémiques, il est toujours dans le respect de son adversaire et que ce qu'on a appelé l'ironie voltairienne repose en fait sur l'art d'infiltrer l'idée de l'adversaire pour mieux la rendre ridicule. Hein, il n'est pas dans le conflit frontal des idées, il est dans l'insertion du système de l'autre pour le faire imploser de l'intérieur.
Et on parlait tout à l'heure de son enrichissement, il va gagner de l'argent lui-même grâce à la spéculation, Loïc Charles.
Oui, c'est un auteur qui est un auteur à succès à tout point de vue, puisqu'effectivement, en fait, il va accumuler au cours de son existence une richesse très importante par divers moyens, notamment en boursicotant en fait pendant l'époque du système de l'eau, et puis ensuite en développant en fait des revenus diverses et variées de sa plume, bien entendu, mais aussi d'autres origines comme l'agriculture qu'il pratique pendant longtemps, en fait, après, dans la suite de sa carrière et au moment de sa vieillesse.
Et alors, Voltaire pense que la puissance d'un État se mesure à la quantité de ses richesses. En cela, il s'inscrit dans la tradition mercantiliste, Richard.
Oui, tout à fait. Effectivement, il n'est pas le seul. À l'époque, c'est la pensée dominante. Pour une raison simple, c'est que la guerre, en fait, s'est transformée depuis le XVIIe siècle, notamment à l'époque de Louis XIV. Ce sont les gros vaisseaux qui coûtent très cher, les canons, une armée, en fait, nombreuse qu'il faut payer. Et donc, très souvent, les États, en fait, s'épuisent pendant la guerre et la paix vient moins couronner la victoire absolue, en fait, d'un État contre un autre ou d'une coalition contre un autre que tout simplement l'épuisement financier, en fait, des deux. Et c'est ça, en fait, que on voit à travers, effectivement, la conception que l'argent, en fait, et la richesse, en fait, domine la question de la puissance. Souvent, à cette époque, on entend cette formule, hein, la balance des pouvoirs et celle des richesses, hein, pour désigner le fait que, effectivement, ce sont les coffres du roi qui, finalement, sont le témoin, le marqueur, pardon, de sa puissance.
Mais il voit bien que l'Angleterre est en avance sur la France, puisqu'à ce moment-là, l'Angleterre a déjà commencé sa révolution industrielle. Comment explique-t-il cette avance, Loïc Charles ? Peut-être ne le dit-il pas dans ces termes.
Alors, à l'époque, en fait, la révolution industrielle, même en Angleterre, en fait, n'est pas encore visible. Ce qui est visible, c'est la révolution financière de l'Angleterre, puisque la Banque d'Angleterre a été créée, d'ailleurs, quasiment au moment de sa naissance, et joue un rôle très important dans la capacité de l'Angleterre à maintenir, en fait, en échec, la puissance française, qui, d'un simple comptage, en fait, de la population et des armées, devrait normalement s'imposer, en fait, sans problème à l'Angleterre, puisqu'il y a à peu près entre trois et quatre fois plus d'habitants en France que par rapport à l'Angleterre. On trouve en fait chez Voltaire, et c'est vraiment une problématique des années 30, hein, qui l'ouvre, cette importance en fait du commerce qu'on va retrouver ensuite chez des auteurs dont il va s'inspirer comme Melon et d'autres.
Mais c'est vraiment effectivement le commerce tel qu'il est pratiqué en Angleterre qui fascine Voltaire. Voici ce qu'il écrit dans les Lettres philosophiques.
Le commerce, qui a enrichi les citoyens en Angleterre, a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son tour. De là s'est formée la grandeur de l'État. C'est le commerce qui a établi peu à peu les forces navales par qui les Anglais sont les maîtres des mers. Ils ont à présent près de 200 vaisseaux de guerre. La postérité apprendra peut-être avec surprise qu'une petite île, qui n'a de soi-même qu'un peu de plomb, de l'étain, de la terre à foulon et de la laine grossière, est devenue par son commerce assez puissante pour envoyer en 1723 trois flottes à la fois en trois extrémités du monde. L'une devant Gibraltar, conquise et conservée par ses armes. L'autre à Portobello, pour ôter au roi d'Espagne la jouissance des trésors des Indes. Et la troisième dans la mer Baltique, pour empêcher les puissances du Nord de se battre. Tout cela donne un juste orgueil à un marchand anglais, et fait qu'il ose se comparer, non sans quelque raison, à un citoyen romain. Aussi, le cadet d'un père du royaume ne dédaigne point le négoce. Milord Townshend, ministre d'État, a un frère qui se contente d'être marchand dans la cité. Dans le temps que Milord Oxford gouvernait l'Angleterre, son cadet était facteur à Alep, d'où il ne voulut pas revenir et où il est mort.
Une lecture des lettres philosophiques ou lettres anglaises de Voltaire par Diane de Vancet de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Ce que l'on comprend avec ce texte, Martial Poisson, c'est que pour Voltaire, la liberté permet le commerce et le commerce rend libre.
Oui, absolument. On est vraiment dans cette vision du commerce comme... Alors, c'est intéressant parce qu'il tranche finalement avec la vision de ses prédécesseurs qui étaient donc toujours entachés de moralisme ou de théologie. Donc, la production de richesses, l'enrichissement, la circulation de la monnaie était considérée finalement comme une sorte de tabou ou quelque chose de moralement répréhensible. Et tout à coup, lui a renversé complètement la focale en disant « Mais non, c'est ça qui justement va permettre à l'individu de se libérer du joug du corps social, et en particulier en France, où les pesanteurs sociales sont très fortes, de se libérer également sur le plan intellectuel. Hein, et ça, c'est un autre aspect très intéressant de son travail. Il est un des tout premiers, et ça a été longtemps mal compris, à mettre un point d'honneur à ne pas vivre de sa plume, en fait. Et il se moquait beaucoup, justement, des Rousseau des Ruisseaux, des pauvres diables. Il y a un long poème qui s'appelle Le pauvre diable, où il fait le portrait absolument épouvantable d'un écrivain qui est là à courir le cachet, à être obligé d'aliéner son écriture. Et pour lui, voilà, ça, c'est l'aliénation suprême, d'être obligé de travailler à la commande. Et si on a une fortune suffisante, alors on atteint l'indépendance artistique, qui est vraiment le véritable objectif et qui permet d'affranchir la pensée. Donc tout est vraiment imbriqué chez lui et il puise ce modèle-là effectivement dans l'observation du commerce anglais avec... il en fait même un personnage de fiction. Il y a une de sa comédie la plus célèbre, hein, Le Café ou l'Écossaise, et l'histoire d'un commerçant britannique qui s'appelle Freeport, en plus, bon, le nom prédestiné, et qui va être celui qui va résoudre l'intrigue, qui va faire preuve de philanthropie, qui justement par ses richesses va aussi exercer un certain nombre d'actions sociales. Et voilà, on est vraiment dans la glorification de ce héros moderne de l'économie qui est le commerçant, et en particulier le commerce de mer, avec un autre élément intéressant pour Voltaire, c'est la fascination et l'aversion en même temps pour le risque. Il faut se souvenir en fait que le commerce de mort, hein, de mer, les vaisseaux qu'on arme justement,
là, c'est intéressant.
Ouais, tout à fait. C'est très rémunérateur puisqu'on a des taux d'intérêt de 30%. Mais on peut aussi tout perdre, puisque en cas de naufrage, de pillage, de piratage, on perd tout, en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment une sorte de calcul et d'aventure qui va à la fois fasciner et en même temps faire peur à Voltaire, puisqu'il oui. dit... je fus commerçant, j'étais même très fier de recevoir des lettres de Portobello et de Buenos Aires. J'y ai perdu 40 000 écus. J'ai mieux réussi dans la profession de laboureur. On risque moins et on est moralement sûr d'être utile. Ce qui est exactement l'envers de tout ce qui vient d'être dit.
Oui, on va revenir d'ailleurs sur ce rôle de laboureur à la fin de sa vie. Mais ce que l'on voit, c'est que le commerce, selon Voltaire, a permis aux Anglais de devenir les maîtres des mers à une époque, Loïc Charles, où il y a une concurrence importante sur le plan commercial entre la France et l'Angleterre.
Ah, tout à fait, oui. La France, en fait, qui est un pays relativement mineur... au milieu du XVIIe siècle, devient le premier concurrent de l'Angleterre, qui a écrasé un petit peu les armées hollandaises à la fin du XVIIe siècle. Et donc, effectivement, tout le XVIIIe siècle, toute l'époque de Voltaire, finalement, est caractérisée par cette lutte très, très violente entre l'Angleterre, plutôt républicaine, et puis la France, en fait, plutôt monarchique. L'Angleterre a pour elle le commerce, et la France aurait pour elle la population, l'armée, et Voltaire, en fait, prend position pour plutôt le modèle anglais. Et c'est quelque chose qui va se retrouver vraiment dans les années 30, juste après la publication des lettres philosophiques. On va avoir toute une série d'auteurs qui vont reprendre et amplifier en fait les thématiques qu'on a chez Voltaire, comme par exemple Melon dans l'essai politique sur le commerce. Il y a une controverse auquel participe Voltaire sur le luxe. Et tout ceci en fait contribue à essayer de rapprocher finalement. Hein, Voltaire voudrait que la France se rapproche rapproche finalement en fait du modèle anglais, tant au niveau politique qu'au niveau en fait économique.
Oui, mais même si la France est en retard sur l'Angleterre, le commerce se développe au début du XVIIIe siècle. Il y a un essor des importations et des exportations.
Tout à fait. Au contraire, la France se développe plus rapidement que l'Angleterre dans les années 1720-1730, même 1740, justement parce que son commerce en fait transatlantique hein, vers les îles, ce qu'on appelle à l'époque les îles américaines, se développe fortement. La France devient le plus grand pourvoyeur en fait de sucre européen puisqu'elle réexporte en fait le sucre de canne importé en fait des îles de la Guadeloupe, de la Martinique et de Saint-Domingue. On a également en fait un essor commercial et économique assez fort sur le territoire métropolitain également, qui se mesure par le fait que le commerce extérieur de la France connaît une très forte augmentation. La France prend en fait des marchés aux Anglais, notamment auprès de l'Empire ottoman, ce qu'on appelle à l'époque le Levant, dans la Méditerranée. Hein, les commerçants français expulsent finalement par la concurrence les commerçants anglais, et c'est le cas pour beaucoup de marchés européens.
Et pour cela, elle développe ces villes atlantiques comme Saint-Malo, Bordeaux, Nantes, Dunkerque, Rouen. Et tout cela aiguise la concurrence avec l'Angleterre, Loïc Charles.
Tout à fait. Les villes atlantiques françaises connaissent un fort développement à cette époque. Dès la fin du XVIIe siècle, Saint-Malo devient une place très importante qui connaît une très grande richesse au début, enfin dans les années 1720-1730, notamment à travers le commerce avec l'Espagne et plus précisément en fait l'Empire espagnol avec laquelle elle commerce indirectement via Cadix. On retrouve également en fait une très forte augmentation des ports tels que Bordeaux, notamment le vin de Bordeaux, et les liaisons avec les îles américaines.
Mais pour Voltaire, ça ne va pas assez loin, et cela pour une raison simple, c'est parce que les nobles français ne s'intéressent pas au commerce. Il va tourner en dérision cette oisiveté de la noblesse, Martial Poirson.
Oui, tout à fait. Il y a toute une réflexion sur ce qu'on appellera beaucoup plus tard la consommation ostentatoire. Et donc, ce qui est intéressant chez lui, justement, c'est que sa critique de la noblesse n'est pas frontale. Il se contente pas de la traiter d'oisive. Il considère que, justement, son oisiveté même pourrait être productrice de richesse à travers un effet d'entraînement, voire un effet multiplicateur, puisque la consommation de ces produits de luxe qui viennent pour une grande part, effectivement, du commerce colonial, est aussi un facteur de dopage de la production et de la croissance. Et donc, l'oisiveté des plus riches pourrait permettre finalement de fournir du travail aux artisans, à tous ces métiers de l'artisanat de luxe qui se développent en particulier autour de la cour, mais pas seulement, hein, dans toutes les grandes cours provinciales également. Donc il est un des tout premiers à réfléchir sur cette théorie sur laquelle on continue encore à débattre aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle maintenant la théorie du ruissellement, c'est-à-dire l'idée selon laquelle finalement le sommet de la pyramide permet d'abonder un enrichissement relatif des plus humbles jusqu'en bas de la pyramide à travers un double système qui est à la fois un principe de différenciation. Ce qu'on demande aux aristocrates, c'est de toujours déplacer finalement les critères et les canons de la distinction, pour reprendre un terme de Bourdieu, et les plus pauvres imitent avec retard finalement ces nouvelles pratiques de consommation. Donc il y a une dynamique sans fin finalement du circuit économique qui se met en place, y compris de la part des oisifs.
Mais si pour Voltaire l'oisiveté peut être productive, et on va revenir hein, sur ce point, il considère tout de même que le commerçant est plus utile à l'État que le courtisan, Martial Poirson.
Oui, alors le vrai héros, puisque c'est celui qui va rafler la mise, et d'ailleurs, en fait, sur le plan historique, c'est ce qui est en train de se passer, hein. On assiste à travers ce système à un appauvrissement relatif et progressif, y compris de la plus haute aristocratie de cour, au profit de l'essor d'une bourgeoisie d'affaires, d'une bourgeoisie commerçante, d'une bourgeoisie bancaire et financière également, qui va devenir, Voltaire lui-même d'ailleurs, devient le banquier de plusieurs princes européens, devient le banquier des émigrés genevois de la République de Genève qui ont été proscrits. Donc il va prêter beaucoup d'argent à tous ces gens-là et donc participer activement, enfin son enrichissement va s'opérer effectivement à travers cet appauvrissement des élites. Donc on est vraiment dans une réflexion sur l'effet dynamique du luxe et la nécessité finalement d'entretenir, alors par contre, un système fortement hiérarchisé qui permet justement d'articuler l'intérêt des uns et des autres.
Oui, ce sont les rigidités dont vous parliez tout à l'heure. Voltaire estime que dans plusieurs nations d'Europe, le commerce est vu d'un mauvais œil et cela l'empêche de se développer. Il critique aussi l'Allemagne de ce point de vue-là, Loïc Charles.
Oui, en fait, bon, on a l'anti-modèle par rapport à l'Angleterre. Effectivement, Voltaire, en fait, a une vision très très tournée en fait vers cette idée qu'il faut non pas supprimer, mais disons adoucir en fait les barrières qui existent entre les statuts, notamment pour les raisons qu'a indiqué Martial juste avant, l'idée du ruissellement en fait finalement de la copie en fait du modèle noble de la part de la bourgeoisie, c'est ce qui permet en fait de nourrir en fait l'enrichissement, ce qui n'est pas le cas en fait dans des sociétés disons plus traditionnelles comme celle de l'Allemagne, comme celle de la Suisse de l'époque ou scandinaves, qui sont disons moins avancées et dans lequel on ne retrouve pas en fait justement cet effet d'émulation qui est assez fondamental en fait pour expliquer disons le dynamisme très fort de l'Europe atlantique, on peut la nommer comme ça.
Dans ces années 1720-1730, le commerce français se développe, en particulier le commerce des produits équatoriaux, qui est la part la plus dynamique du commerce extérieur français, en particulier avec les Antilles. Et à cette époque, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer l'esclavage, en particulier Montesquieu, mais aussi Voltaire. Delgrès sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, une chanson en hommage à Louis Delgrès, un officier né en Martinique qui s'est opposé au rétablissement de l'esclavage sous Napoléon. Nous continuons à parler de l'économie selon Voltaire. L'économiste Loïc Charles et l'historien Martial Poisson sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Jeanne Tchercofosse et mise en onde par Alex Dang. Nous avons parlé de l'essor du commerce en France qui a permis à une partie de la bourgeoisie de s'enrichir considérablement et elle va commencer à adopter le même mode de consommation que la noblesse qui crée un certain nombre de conflits à Martial Poisson.
Alors oui, elle les adopte, mais avec retard. Et toute la subtilité, c'est précisément pour l'aristocratie de rester toujours un pas en avance sur la bourgeoisie qui cherche à limiter, à singer ses attitudes, mais avec une situation un peu paradoxale, c'est que, étant en train de s'appauvrir du fait de ses dépenses somptuaires, du fait de cet entretien du luxe, d'un haut train de vie, les aristocrates commencent à être obligés de consentir des mésalliances. Et c'est la grande époque, d'ailleurs c'est un des grands sujets des comédies de Voltaire, un autre aspect de Voltaire, hein, l'auteur comique, très très connu à l'époque, avec des pièces qui ont été un énorme succès, et qui se moquent justement de cette espèce de piège pour l'aristocratie, de tenir son rang, et pour tenir son rang, de devoir s'allier à des femmes bien dotées de la bourgeoisie. Donc il y a toute une réflexion là-dessus, sur le fait que finalement c'est par la bourgeoisie, au bout d'un moment, que ces aristocrates peuvent entretenir le train de vie qui leur permet de garder la position ascendante sur la bourgeoisie. Mais le point aveugle finalement dans tout ce système, qui est quand même une conception qui reste globalement très hiérarchique de la société française, c'est le peuple, hein. Ce qu'il appelle appelle lui-même la populace. Et on a vu qu'il était très très inspiré par différents modèles européens. Alors, dans un essai très très intéressant, qui est très daté aujourd'hui sous certains aspects, mais très moderne sous d'autres, qui le ramène encore là aussi du côté du Montesquieu de l'esprit des lois, l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, en 1756, il réfléchit sur l'opulence du modèle chinois. Et il dit la chose suivante, qui devrait nous faire réfléchir, « Quand nous parlons de la sagesse qui a présidé 4000 ans à la constitution de la Chine, nous ne prétendons pas parler de la populace. Elle est en tout pays uniquement occupée du travail des mains. L'esprit d'une nation réside toujours dans le petit nombre qui fait travailler le grand et nourrit par lui et le gouverne. Certainement, cet esprit de la nation chinoise est le plus ancien monument de la raison qui soit sur la terre. » Donc on voit bien que finalement, les grands perdants de ce système d'imitation par la bourgeoisie et d'effets d'entraînement sur le travail des artisans et de l'artisanat du luxe et du commerce, c'est en fait le peuple des travailleurs, par rapport auquel Voltaire a parfois une vraie indignation, en fait, hein, mais qui est toujours considérée comme le maillon faible, le tiers exclu de sa représentation globalement très, très hiérarchique de la société.
Je précise que ce lapsus vers Molière s'explique par l'excellente émission qu'on avait fait avec vous, Martial Poisson, sur l'économie selon Molière. Loïc-Charles, en effet, on voit bien que il y a toujours cet enjeu pour les aristocrates d'avoir un coup d'avance sur la bourgeoisie, notamment en termes de mode. Et ça, finalement, ça a un effet assez positif sur l'économie.
Tout à fait. C'est à cette époque, justement, que naît ce qu'on appelle, enfin, ce qui aujourd'hui est passé dans le langage courant comme étant la mode. Chaque année, en fait, pour justement se distinguer de ces bourgeois fraîchement enrichis qui adoptent, en fait, des habits qui ressemblent terriblement à ceux de la cour, eh bien, la noblesse versaillaise se met à changer, en fait, de motifs chaque année. Alors, une année, ça va être des motifs antiques, un autre, ça va être des motifs floraux. Et c'est, en fait, ce sont des qui sont passés à la Compagnie orientale des Indes, ont fait venir en fait des tissus précieux, des soieries, des cotonnades d'Inde et de Chine, que la cour porte et qui sont immédiatement imités dans les provinces, puis dans les cours étrangères également. Et donc la noblesse, l'année suivante, est obligée en fait de changer de motif et c'est ainsi que la mode naît. Et donc on a vraiment ce qu'on a indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire cet effet d'imitation, d'entraînement. Et puis en plus, comme les bourgeois en fait sont un peu moins dispendieux et moins riches, eh bien ils adoptent en fait des tissus qui sont de même motif mais moins riches. Hein. Au lieu de soie pure, on va avoir des soies mêlées, on va avoir des tissus mêlés. Ça incite aussi à l'évolution technologique. Donc on a tout un tas d'évolutions et d'améliorations et d'enrichissements qui sont liés justement à ce phénomène de mode.
Voltaire, qui va se faire le défenseur du luxe à travers sa défense du mondain. Écoutez. Ô faux dévot, véritable mondain, connaissez-vous, et dans votre prochain ne blâmez plus ce que votre indolence souffre chez vous avec tant d'indulgence. Sachez surtout que le luxe enrichit un grand état s'il en perd un petit. Cette splendeur, cette pompe mondaine, d'un règne heureux est la marque certaine. Le riche est né pour beaucoup dépenser, le pauvre est fait pour beaucoup amasser. Ainsi, l'on voit en Angleterre, en France, par 100 canaux circuler l'abondance. Le goût du luxe entre dans tous les rangs, le pauvre y vit des vanités des grands. Et le travail, gagé par la mollesse, s'ouvre à pas lents la route à la richesse. Oh que Colbert était un esprit sage, certains buteurs conseillaient par ménage qu'on abolit ces travaux précieux, des Lyonnais ouvrages industrieux, du conseiller l'absurde prud'homie, eut tout perdu par pure économie. Mais le ministre utile avec éclat sut par le luxe enrichir notre État. Voilà, on commençait à en parler. Voltaire est un partisan de la dépense improductive qu'il considère comme une source de prospérité. Il y a une certaine ambivalence dans le regard et la condamnation que fait Voltaire de à la fois l'esclavage et en même temps la promotion qu'il fait du luxe, Martial Poirson.
Oui, tout à fait. Et un des points clés, hein, sur le plan sémantique, c'est quand il dit « le pauvre est fait pour beaucoup amasser ». En fait, le pauvre, c'est pas le peuple, c'est le travailleur, en fait. Hein. Et donc, il croit à la vertu du travail, du labeur. Il a lui-même mis en scène cette vie de labeur, ce personnage qui n'était, selon son secrétaire, avare que de son temps, puisqu'il était toujours occupé à mille choses, suractif, etc. Donc, c'est vraiment la mythologie de l'homme qui se fait tout seul, de celui qui c'est gravir les échelons et non pas l'idée que finalement le petit peuple, en particulier oisif lui aussi, hein, il y a des textes très durs de Voltaire sur l'oisiveté, non pas simplement des riches statutairement de la noblesse, mais des plus pauvres qui sont tout à fait très très limites même pour nous aujourd'hui dans cette vision.
Un mot peut-être sur la condamnation de l'esclavage par Voltaire, Loïc Charles, c'est une condamnation assez timide.
En fait, Voltaire, n'est pas le seul de toute façon à cette époque-là. Hein. Même chez Montesquieu, ça reste assez ambigu de manière générale. D'abord parce que Voltaire, comme Montesquieu, en fait, n'a jamais été aux îles et finalement n'a jamais vu, en fait, de ses propres yeux l'esclavage. L'esclavage qui est aussi très peu représenté, en fait, dans les œuvres sérieuses comme les œuvres moins sérieuses. Et donc, c'est souvent quelque chose qu'on apprend, en fait, par disons le dialogue, la conversation avec ceux qui les rares en fait marins qui effectivement l'ont pratiqué ou l'ont vu, et donc c'est aussi pour ça en fait qu'on le voit assez peu dans ses écrits, même si dans Candide on a en fait des passages qui sont assez évocateurs et qui sont assez rares en fait quand même à cette époque.
Mais ce qu'il critique, c'est le traitement des esclaves et pas le système économique, en réalité, qui s'appuie sur l'esclavage, puisqu'encore une fois, les nobles en profitent en consommant ces biens de luxe que sont le sucre, le café.
C'est le paradoxe, en fait, du commerce et du capitalisme, on va dire. C'est-à-dire que, en fait, ce que l'on consomme, il faut bien que quelqu'un le produise, et en général, il le produit dans des conditions qui sont pas forcément, qui ne satisfassent pas totalement, en fait, au droit, en fait, de l'homme au sens élargi. Et bien sûr, le constat et le paradoxe est d'autant plus fort, en fait, à cette époque par rapport à aujourd'hui. Mais c'est
Martial Poirson.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, ce qu'on invoque généralement pour dire Voltaire anti-esclavagiste, c'est le chapitre 20, donc du Candide. Mais en fait, il faut savoir que ce chapitre a été ajouté. Il n'est pas dans l'édition originale. Donc, on peut penser que c'est un effet d'opportunité, en fait, qui s'est offert à un moment à Voltaire. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce chapitre? En fait, c'est une grande scène pathétique, finalement, sur, effectivement, la souffrance de cet esclave qui a été martyrisé, mutilé, et à aucun moment il y a une réflexion globale ou géopolitique comme on peut l'avoir à la même époque chez Montesquieu. Hein, Montesquieu, lui, va vraiment faire une corrélation, et à mon sens, c'est le seul qui va aussi loin finalement dans la critique de l'esclavage, puisqu'il l'associe au commerce colonial et qui rend indissociable finalement l'exploitation de l'homme par l'homme et l'enrichissement des pays coloniaux, des grands empires de l'époque, par ce biais-là. Il n'y a rien de tout ça, hein, il n'y a pas cette chaîne de causalité chez Voltaire.
Si Voltaire défend le luxe, c'est en raison de cette théorie du ruissellement avant l'heure, comme vous nous l'avez expliqué, mais c'est aussi parce qu'il s'est lui-même beaucoup enrichi. Comment ? D'abord, grâce à des succès de librairies phénoménaux, Martial Poirson.
Alors, je dirais pas d'abord, ce serait plutôt de façon incidente, en fait, hein, puisque justement, toute l'originalité de Voltaire, et ça le distingue d'un autre personnage sur lequel vous avez fait une émission, hein, Beaumarchais, c'est justement de prétendre que la fortune par la plume est suspecte. Tout comme, d'ailleurs, l'affectation de pauvreté qu'il critique chez un Rousseau, justement. Et donc, il y a eu quelques succès de librairie, effectivement, tout à fait notables. Hein, la Henriade, pour laquelle il lance une souscription quand il est en Angleterre et qui réunit presque 400 préachats, qui va être diffusé à 4000 exemplaires dans le royaume, c'est-à-dire autant que l'encyclopédie, hein, c'est quand même pas rien. Candide, qui va être vendu à 20 000 exemplaires, et ce qui est intéressant aussi chez lui, c'est qu'il y a quand même le début d'une réflexion, non pas tant sur les droits d'auteur que sur la librairie. Hein, il dit, par exemple, des encyclopédistes, dont il va se désolidariser au bout d'un moment pour créer sa propre petite encyclopédie, le petit dictionnaire portatif, puis les questions sur l'encyclopédie, et cette réflexion, c'est vraiment une réflexion avant l'heure sur le Reader Digest. En fait, il dit, mais en substance, comment voulez-vous qu'un livre qui se vend aussi cher et qui réclame autant de volume que l'encyclopédie puisse avoir une quelconque incidence sur l'opinion ? Il faut des petits livres qui circulent rapidement, qu'on puisse lire par morceaux. Il dit lui-même, vous pouvez picorer dans mon texte, quelle que soit l'entrée. Et c'est pour ça qu'il est si attaché à la forme du dictionnaire, dictionnaire philosophique, parce qu'on peut le prendre par n'importe quelle entrée et chaque texte est une petite thèse dans la thèse, en fait. Et donc, il y a vraiment cette réflexion très, très moderne qu'on retrouve dans une citation tout à fait intéressante où il dit voilà, les livres sont faits pour circuler et moi, Rousseau écrit pour écrire, moi j'écris pour agir. Et donc c'est vraiment cette vision de l'efficacité finalement du petit format et du livre de poche avant l'heure à une époque où le livre est encore un objet d'ostentation qu'on conserve dévotement dans sa bibliothèque, qu'on exhibe, qu'on montre, qu'on lit publiquement.
Parmi ses sources de revenus, il y a aussi le théâtre et puis il se lance dans l'industrie. Là encore, cela va être une source d'enrichissement important pour Voltaire, Martial Poirson.
Oui, alors là c'est un aspect tout à fait fascinant du personnage puisqu'on a parlé du commerçant, on a parlé du banquier, on a parlé du financier. Il est aussi donc, dans cette résidence de Ferney où il va passer quand même les 20 dernières années de sa vie, donc juste à côté de la République de Genève, dans un petit village de quelques dizaines d'âmes au moment où il arrive, dont il va faire l'acquisition. Donc là, c'est aussi le Voltaire qui va acquérir un fief et qui donc va concurrencer l'aristocratie dans son privilège finalement de patrimoine foncier. Mais justement, il se contente pas de régner en maître ou en seigneur sur cette terre, il va la viabiliser. Donc il va drainer les canaux, il va paver les rues, il va faire une souscription pour une fontaine publique en libre accès pour tout le monde. Il va également importer une nouvelle machine agraire qui est en fait une machine qui permet à la fois de labourer et de semer, qui vient d'être inventé. Donc, il se lance dans l'agro-industrie, on pourrait dire, puisque à travers cette machine, on a besoin de beaucoup moins de bras. On va pouvoir finalement avoir une action qui est beaucoup plus efficace. Il se met lui-même en scène chaque année en labourant son champ, pour essayer de donner une publicité à cette machine nouvelle que les paysans du coin, du canton de Gex, voient avec un peu de suspicion. Donc, c'est vraiment le gentilhomme campagnard qui devient ingénieur agronome, si on peut dire, auprès d'un anachronisme. Et parallèlement à ça, il va développer toute une industrie, alors de soieries, de tuileries et surtout d'horlogerie. Juste à côté du pays des horloges, il invente finalement une fabrique d'horloges qui va employer un certain nombre de personnes. Il va loger ses ouvriers, donc il y a aussi toute une action philanthropique qui est menée.
Sur Voltaire industriel, Loïc Charles ?
Alors, bon, moi je serais moins j'ai moins, disons, j'ai moins de développement en fait à partager en fait que ceux que vient d'évoquer.
C'est vraiment naissante à ce moment-là en France par peut-être contre, par rapport en Angleterre.
Ce que je trouve intéressant dans le témoignage en fait ou dans ce que vient d'exposer en fait Martial, c'est que je trouve qu'il y a une certaine en fait ambiguïté finalement de Voltaire, notamment par rapport à la question du travail. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il encourage beaucoup chez les autres, alors qu'en fait ce qu'il valorise dans son parcours personnel, c'est plutôt l'indépendance par rapport à son propre travail. Ce qu'a noté Martial, c'est très intéressant, le fait que finalement, en fait, il ne vit pas, il ne s'enrichit pas de sa plume, et c'est vraiment une attitude d'aristocrate à l'époque. C'est vraiment quelque chose, et même dans le choix, en fait, de s'exiler avec cette terre, les travaux aussi d'amélioration des terres, c'est quelque chose, en fait, qui est très associé, en fait, à la noblesse éclairée de l'époque. Et donc, on retrouve une espèce, à la fois une critique très très forte, en fait, de la séparation en fait statutaire entre noble et non noble, et finalement il reproduit dans sa vie personnelle et dans ses choix en fait de vie cette séparation. Et l'industrie en fait de ce point de vue-là est pas du tout une, disons, quelque chose qui vient contre ce que je viens de dire. Au contraire, l'industrie, souvent les mines en fait, sont quelque chose qui sont souvent prises en charge en fait par des nobles et non pas par des bourgeois qui préfèrent le négoce, qui préfèrent le commerce.
On a parlé de sa vision de l'économie, même si le terme n'existe pas encore à l'époque de Voltaire, vision vraiment influencée par le mercantilisme. Et donc, pour lui, l'État doit développer sa richesse par le commerce, mais aussi par une forme de protectionnisme, Martial Poirson.
Oui, tout à fait. Donc, il est dans une conception qu'on pourrait qualifier de relocalisation de la production, en fait. Il est encore, on l'a dit tout à l'heure, très, très mercantiliste dans son esprit. Donc, il pense que finalement, il y a une part de dispersion et d'affaiblissement des États dans certains effets du commerce international. Et donc, il croit effectivement à la force des terroirs et des territoires comme lieu d'implantation de la manufacture. Bon, alors, ce qui n'est pas complètement original, puisqu'à l'époque, hein, on est encore bien avant en France la révolution industrielle. Donc, la manufacture dispersée, ça existe un peu partout dans le royaume. Des paysans qui deviennent, pendant les jours chômés ou les périodes d'hiver, ouvriers, et puis qui retournent au champ. C'est une pratique qui est quand même relativement courante à l'époque. Mais ce qui est intéressant dans sa pensée, et qui en fait quelqu'un d'assez original sur ce plan, dans cette figure de capitaine d'industrie qu'on est en train de brosser, c'est, je dirais presque, une conception philanthropique, puisque il a une vraie réflexion aussi sur la façon dont on peut intéresser la main-d'œuvre, justement, toujours dans cette idée de la motivation par le travail, et de la lutte contre la société des loisirs, quelle qu'elle soit, de haut en bas. Et donc, il va avoir un grand soin à loger ses ouvriers. Il va même accueillir plusieurs centaines de natifs genevois qui sont expulsés de la République de Genève voisine et qui vont être tout de suite logés, auxquels on va trouver un travail, pour lesquels il va créer une industrie. Donc, voilà, il accueille comme ça, ce qui sont presque un peu enfin, des figures de migrants de l'époque, si on peut dire. Il est aussi, alors ça, c'est ses différents secrétaires qui en attestent, il est extrêmement prodigue, il va prêter sans jamais vraiment retrouver ses fonds à des tas d'hommes de lettres justement désargentés, à des tas de pauvres. Il va faire des actes de charité. Donc il y a une conception presque un peu redistributive, hein, la contrepartie de cette glorification de l'entrepreneur innovant et donc de l'enrichissement par à la fois le labeur et les idées. C'est justement l'effet redistributif, les actes de charité qui sont un peu ostentatoires pour certains, hein, puisque quand il dit voilà je suis l'aubergiste de l'Europe, j'ai parfois 300 personnes à souper de façon impromptue. Évidemment, il met aussi en scène une forme de prodigalité qui est là encore une façon de concurrencer l'éthos nobiliaire. Hein, cette idée de, voilà, d'accueillir à sa table toute la misère du monde, c'est aussi une certaine vision des valeurs aristocratiques. Donc on est toujours dans des figures extrêmement ambivalentes et insaisissables.
Et est-ce qu'une partie de sa fortune a pu venir de la traite négrière? Il n'y a pas vraiment de preuves, mais il y a des soupçons, Martial Poirson.
Alors, on a inventé au milieu du 19e siècle une preuve. Un certain Levavasseur a fait un texte sur la question de l'exploitation coloniale qui s'inscrivait dans la polémique sur la fin de l'esclavage. Hein. On est dans les années 40, on n'est pas très loin de l'abolition de 48, donc il y a une mobilisation très très forte du groupe pro-esclavage. Et donc on va aller chercher dans Voltaire une lettre qui en fait s'est avérée être un apocryphe, où il dirait, et là c'est très, il faut vraiment la lire avec précision parce que vous allez voir la subtilité de l'argumentation. Donc, il aurait écrit à un armateur nantais très célèbre, négrier et notoire, pour le remercier finalement d'un investissement qu'il avait fait fructifier. « Je me félicite avec vous du succès du navire Le Congo, qui est arrivé fort à propos sur la côte d'Afrique, pour soustraire à la mort tous ces malheureux noirs. » Vous voyez un peu le cynisme de la lettre. « Je sais d'ailleurs que les nègres embarqués sur vos bâtiments sont traités avec autant de douceur que d'humanité, et dans cette circonstance, je n'ai qu'à me réjouir d'avoir fait une bonne affaire en même temps qu'une bonne action. » Donc, c'est un faux, il n'y a pas un mot de Voltaire là-dessus, mais ça montre bien que l'idée est de mettre en porte-à-faux celui qui est devenu entre-temps la grande figure de la pensée républicaine, qui est sanctifiée par tous les milieux justement anti-esclavagistes, au motif de ce fameux texte, en fait, assez anecdotique de Candide, serait finalement quelqu'un qui pratique le double discours et dont les actions seraient en contradiction avec ses paroles. Ce qui est vraiment le contraire de la vie de Voltaire, qui au contraire a cherché à toute force à rendre cohérente son action d'affairiste, d'activiste, d'entrepreneur, et sa pensée, hein, dans cette confusion toujours entretenue, entre l'homme et l'œuvre. Et ce qui reproche justement à Rousseau, c'est d'être en contradiction avec ça. Donc il y a vraiment une tentative de sape, finalement, de ce qui est devenu en fait la fortune de ce texte, à savoir un manifeste anti-esclavagiste.
Vous n'êtes pas autorisé à écrire.
Il le faut. Il y a trop de mots qui s'accumulent dans ma tête. Si je ne les couche pas sur papier, je vais devenir fou.
Cessez de réfléchir. Ça vous soulagera.
Attends. Tu auras un louis d'or si tu me trouves un crayon. Juste un crayon.
C'est là, dans ce sombre cachot de la Bastille, seul face au désespoir, que je découvris ce qui me permettrait toute ma vie de surmonter les chagrins, les échecs, l'exil. Le travail. Dès que j'écrivais, j'oubliais tout.
Les aventures du jeune Voltaire, une mini-série réalisée par France Télévisions en 2021. On a dit que Voltaire avait acquis une fortune confortable, mais il y aurait quand même, vous me disiez, pendant qu'on entendait ainsi cet extrait, que tout de même une partie de la fortune de Voltaire avait eu une part liée avec le commerce outre-Atlantique et la traite négrière.
Oui, alors effectivement, on n'a pas d'archives en fait qui attestent d'un lien quelconque, si ce n'est quand même un investissement dans le Saint-Georges, dont on sait qu'il a quand même fait route vers la Guinée pour prendre des esclaves, mais il y a quand même un très grand mélange à l'époque, et c'est vrai de lui comme la plupart des hommes fortunés de l'époque, en fait, le commerce est en fait une façon de déléguer sa fortune à des armateurs qui ensuite vont faire leurs affaires et vont rendre des comptes ex post, en fait, après le retour, quand le bateau revient, puisque s'il ne revient pas, l'investisseur a tout perdu, et donc il y a très peu de contrôle en fait de la part des investisseurs sur la nature réelle de leurs investissements. Et donc on peut penser que incidemment, de façon indirecte en tout cas, la fortune personnelle de Voltaire, qui à une époque est quand même assez importante, a pu servir d'une façon ou d'une autre à tout ça. Et puis l'autre argument, c'est de dire qu'il est quand même lui aussi un grand consommateur de café et de ce sucre qu'il reproche aux Européens de consommer dans le Candide. On sait qu'il est une des persona grata du Procope, qui passe beaucoup de temps finalement à bénéficier lui-même du marché du cacao, du sucre et du café. Donc c'est un petit peu le même argument que sur les gens qui critiquent la drogue aujourd'hui et puis qui en même temps sont eux-mêmes des consommateurs. Il y a une espèce de dissociation mentale entre le marché qui s'ouvre à travers cette consommation ostentatoire qu'il défend dans l'Éloge d'Ombondin et dans tous ses textes sur le lustre et la réalité de l'origine finalement de ces denrées coloniales. Et puis le dernier aspect, peut-être le plus original de sa pensée, c'est que, et c'est aujourd'hui très très limite, il faut le dire avec beaucoup de précaution, c'est que s'il y a une critique de l'esclavage chez Voltaire, elle passe par le refus de l'essentialisation du noir, qui est en fait l'approche de Diderot, qui est l'approche de Rousseau, la figure du bon sauvage, de l'innocence, de ce peuple africain qui n'a pas d'histoire et que la corruption des villes européennes serait venue finalement corrompre, maltraiter, et donc finalement qu'il y aurait une sorte de servilité naturelle, ou en tout cas de passivité naturelle de ces peuples. Et Voltaire dit non, attention, les commerçants européens, ils vont traiter avec des chefs tribaux qui sont en fait les fournisseurs d'esclaves. Et donc il y a une responsabilité de ces chefs tribaux dans finalement la traite d'une partie des populations africaines. Alors ce qui n'est pas du tout un argument qui, dans l'esprit de Voltaire, permet d'innocenter la responsabilité des Européens, mais au contraire d'habiliter en dignité ces cultures. Dire non, c'est des vraies civilisations et elle participe au jeu de l'échange international à travers notamment cette démarche-là. Et ça, c'est quand même assez unique, je pense, dans toute la constellation de la pensée, non pas forcément anti-esclavagiste, mais en tout cas critique à l'égard en particulier de la traite atlantiste.
Il y aurait eu encore beaucoup à dire sur l'économie selon Voltaire, mais on est rattrapé par le temps. Merci beaucoup Loïc Charles et Martial Poirson de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Martial Poirson, spectacle et économie à l'âge classique 17e-18e siècle chez Classique Garnier. Et Loïc Charles, vous avez publié avec Christine Terret et Jean-Claude Perrault les œuvres économie complète et autres textes de François Quesnay aux éditions de l'INED. Un grand merci encore.
Winding along, the power and the glory with the song. Holy moly, where did the time go?
baby, now you know. I'm keeping the balls in the air. When I'm up here on the bed, there'll be a little bit here and there. Still be trying to understand it, but they'll all be in the air.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho, la découverte musicale du jour. C'est Two Pair of Hands de Mark Knopfler. Demain, avec ses invités, Alia Tovin se demandera si la financiarisation de la santé menace le système de soins français. Elle sera en compagnie de Laura Alès et de Yann Bourgueil. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Retrouvez-nous également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho et en vidéo sur YouTube.